Même audio, vous ne l'avez pas vu, vous pouvez l'entendre.
On va continuer et on commence, on va entamer le deuxième thème de la table ronde et on compte avec la participation de Virginie Fauré et d'Henri Farini. Et la première à intervenir, c'est Virginie.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, en ce qui me concerne, je vais évoquer donc la déportation de Conchita ainsi que le retour et la mémoire. On va d'abord évoquer le train fantôme, hein, qui est un train de déportation très particulier, puisqu'en moyenne, les convois mettent 3 à 4 jours à arriver au camp, à destination. Là, il mettra quasiment en fait 2 mois. Donc, je vais énumérer certaines dates pour que vous compreniez mieux en fait en quoi ce train est exceptionnel. Donc, le 2 juillet 1944, à 6 heures du matin, les détenus sont conduits à la gare Rénal, qui est une gare de triage et non une gare de voyageurs, puisque les déportés partent dans des wagons à bestiaux. Le 3 juillet, ils prennent la direction de Bordeaux, puis d'Angoulême, où ils arrivent le 8 juillet. Au cours du trajet, ils vont subir le premier mitraillage. Et Conchita se rappelle de cet événement, parce qu'elle se rappelait encore du bruit qu'avaient fait en fait les explosions. Pour que ça ne se reproduise pas, les déportés vont agiter, aux lucarnes, des petits bouts de tissu pour montrer leur présence, pour faire comprendre en fait aux alliés que ce n'est pas en fait un convoi qui transporte des militaires, mais qu'à l'intérieur, il y a des prisonniers. Ils vont retourner vers Bordeaux en raison de ces attaques aériennes et du fait que les voies de chemin de fer ont été détruites, et ils vont y rester 3 jours en gare. Puis, le 12 juillet, ils vont être conduits à la synagogue. Le lendemain, les femmes du convoi vont rejoindre la caserne Boudet. Aux conditions difficiles et à la précarité, ils vont connaître un événement qui va énormément marquer Conchita. C'est la mort de 10 hommes de ce convoi qui ont été fusillés au camp de Souges, en représailles, puisque des attentats avaient été commis contre les Allemands. Elle s'en rappelle très bien, puisqu'elle avait sympathisé avec un de ces hommes, Robert Borios, dont les parents tenaient un café, place du Capitole, ici donc à Toulouse. Et il avait dit qu'à la libération, enfin au retour du moins, parce qu'il ne savait pas encore ce qui les attend, il ferait une grande fête au café. Malheureusement, il ne reviendra pas et c'est Conchita qui annoncera sa mort à ses parents. Le 7 août, ces femmes sont ramenées à la synagogue et là, un nouveau groupe va être créé puisqu'il y a 30 femmes du Fort du Ha qui va en fait se greffer au groupe de ces 35 femmes dont fait partie Conchita. Au total, ils vont passer 28 jours à Bordeaux. Le 9 août, c'est un nouveau départ vers Toulouse. Les femmes, donc ces 65 femmes, occupent les wagons de tête. Il y a 2 wagons, en fait, qui sont dédiés aux femmes. Et Conchita se rappelle de la chaleur qu'il faisait en ce mois d'août, enfermée dans ces wagons à bestiaux. Et elle se rappelle aussi de l'odeur, et notamment de l'odeur de la tinette. Donc la tinette, hein, c'est le seau qui était mis dans les wagons, hein, pour permettre aux déportés de faire leurs besoins. Et donc elle se rappelle, en fait, de l'odeur, du fait que ça se renversait, hein, avec les mouvements du train. Et ce qu'ils vont faire pour essayer de penser à autre chose, pour se donner en fait du courage, ils vont en fait essayer de chanter et essayer également de se raconter des histoires. Et ils se rappellent d'une dame qui disait toujours, ponctuait toujours ses histoires en disant « dikelingeling ». Ils vont rejoindre la vallée du Rhône et là, c'est à cette occasion que Conchita va pouvoir en fait faire passer par un petit trou donc, du wagon un petit mot à sa famille pour informer en fait qu'elle est en vie. Le 15 août, ils sont en gare de Rémoulins sous une chaleur accablante. Ils souffrent de la faim, de la soif et en plus, ils vont être malades car les Allemands veulent leur distribuer une alimentation avariée. Ils vont avoir, parfois, la possibilité de boire, mais de boire une eau qui n'est pas potable. C'est une eau, en fait, qui était utilisée pour faire le plein de la locomotive. Le train repart vers le nord. Ils vont s'arrêter 20 km plus loin, en gare de Roquemort. Et là, en fait, ils vont être obligés d'abandonner le train. Ils vont marcher pendant 17 km entre Roquemort et Sorgues, à travers les vignobles, bien sûr, interdiction de manger du raisin. Les femmes sont en tête, elles portent leurs affaires et elles aident également les malades. Le 18 août, ils vont arriver en fait à Sorgues. Et là, ils vont recevoir l'aide des habitants, des fruits, du pain, de l'eau. Ces habitants vont être formidables. Ils vont permettre à environ une trentaine de personnes de pouvoir en fait s'enfuir, de pouvoir s'évader. Et ce qui va redonner espoir en fait à ces prisonniers, c'est le fait qu'on leur annonce que le débarquement en Provence a eu lieu. Puis c'est le départ en fait vers Lyon sous les attaques alliées, Là, à nouveau, pour essayer de se signaler, ils vont confectionner des petits drapeaux aux couleurs du drapeau français. Malheureusement, ça ne marche pas toujours, puisque Conchita va être blessée. Son bras va être éraflé par une balle. Elle s'estime chanceuse, puisqu'elle a pu voir, en fait, dans quel état était le haut du wagon. Il était criblé de balles. C'est un nouveau départ, direction Dijon, et à partir de Dijon, le train ne s'arrêtera plus. Donc là, Conchita va connaître en fait la déportation. Elle va découvrir le système concentrationnaire nazi. Tout d'abord au camp de Dachau, où elle arrive le 28 août 1944. Alors Dachau, c'est un camp d'hommes en fait, hein, qui se trouve à 15 km de Munich, en Bavière. Et il a été construit en mars 1933. C'est le premier contact pour les prisonniers avec le système concentrationnaire nazi et avec sa réalité. Ils arrivent de nuit, sous les cris, sous les coups, et c'est la stupeur. Ils pensaient qu'ils arrivaient dans un camp, mais dans un camp de prisonniers de guerre, et non dans un camp de déportés. Et quand ils aperçoivent les premiers déportés, ben, ils ne savent pas comment réagir. Les femmes vont accéder en fait aux douches, alors c'est relatif, hein, les douches, tantôt de l'eau froide, tantôt de l'eau brûlante, et elles vont recevoir un numéro d'identification. Alors Conchita n'est pas au courant, elle va le découvrir en 1991 grâce aux études Sorgues. Elle a reçu en fait le numéro 93887. Les femmes ne sont pas soumises au travail, elles sont enfermées dans un magasin de ravitaillement allemand et la nuit, elles vont dormir dans les douches. Elles n'ont pas la tenue rayée, elles portent toujours les mêmes vêtements qu'elles avaient au départ de Toulouse. Par contre, elles vont recevoir les rations, hein, la nourriture, la même que celle qui est donnée pour ceux en fait, qui partent au travail. Et puis au bout d'une semaine, ces femmes sont conduites à pied à la gare de Munich, à 17 km donc, de Dachau. Et là, elles vont découvrir le camp de Ravensbrück. Il est situé à 80 km au nord de Berlin. Il a été construit en 1939 par 500 déportés du camp de Sachsenhausen. On appelle également cet endroit, en fait, la petite Sibérie mecklembourgeoise. C'est pour vous donner un ordre d'idée du froid qu'il fait en hiver. Il faut savoir qu'il va faire moins 33 degrés. Ce camp va être agrandi à plusieurs reprises. Donc, comme vous pouvez le voir en fait, à l'écran, vous avez ici une reproduction du camp qui a été réalisée par une déportée, par Franz Odoul, de tête. Elle avait pu voir en fait, un plan établi par les nazis et elle a reproduit pour montrer en fait, à quoi ressemblait ce camp. Elles vont subir une visite médicale. Visite médicale, tout est relatif. Leurs affaires vont être retirées. Mais Conchita a eu la chance de pouvoir garder un petit morceau de savon ainsi qu'une brosse à dents. Elles vont, là aussi, passer aux douches et elles vont être tondues. Et c'est là que débute la déshumanisation. Cette déshumanisation, vous l'avez représentée ici à l'écran avec un dessin donc, qui a été réalisé par Violette Rougier-Lecoq. Et vous voyez, elle l'a intitulé « Deux heures après ». C'est pour vous montrer à quel point tout cela est bien organisé, à quel point tout cela est rodé et à quel point elles vont perdre totalement leur identité. Elles sont rasées, comme vous pouvez le voir. Elles portent dans ce dessin, sur ce dessin la tenue rayée, un triangle rouge. Il y aura aussi, pour les identifier, un numéro matricule qu'il faudra apprendre par cœur en allemand et également la lettre donc, de leur nationalité. Elle reçoit à Ravensbrück le matricule 62 480 qu'il faut apprendre par cœur en allemand pour être en mesure de répondre au moment des appels. Et là, elle va recevoir en fait une robe dans laquelle il y a une grande croix qui est peinte ou collée dans le dos et des sandales. Conchita recevra une robe en laine. Elle estime que c'est un avantage en fait en raison de la rigueur du climat. Elles font partie donc à présent d'un ensemble. Elles sont toutes semblables. Plus rien ne va les distinguer. Et on leur explique surtout qu'elles ne sortent pas vivantes en fait du camp de concentration. Elles vont connaître la quarantaine, dans le cas où elles seraient malades, ça dure à peu près une dizaine de jours. Elles vont subir les appels le matin, le soir, et elles vont y apprendre en fait les règles du camp. Elles sont enfermées dans un bloc, et elles ne doivent pas en fait en sortir. Et c'est là où elles découvrent également ce qu'on appelle les chalits, c'est-à-dire des sortes en fait de lits superposés, très étroits, dans lesquels elles vont devoir dormir à deux ou à trois. Mais elles ne vont pas écouter en fait les consignes, Conchita et les plus jeunes, et elles vont sauter par la fenêtre parce qu'elles ont envie de découvrir le camp. Malheureusement, elles vont se faire prendre et elles vont être envoyées en fait au bûcheronnage. Ça consistera en fait à ramasser des petits morceaux de bois. Et puis, elles vont être en fait affectées, enfermées au bloc numéro 22, qui est le bloc des tziganes. Et là, elles sont toujours toutes les trois, donc Conchita, sa mère et sa cousine. Et elle explique que c'est en fait une grande chance de rester en fait ensemble et une grande chance d'être également avec des Françaises, puisqu'on peut parler la même langue, donc on peut se soutenir et donc on peut s'unir. Elle va découvrir donc la vie quotidienne d'un camp, les appels, avec le lever à 4 heures du matin devant la baraque, se regrouper en rang, par 5, sous les cris, les coups, dans le froid, avec les morts de la nuit. Elle va également connaître les colonnes de travail qui se forment, départ pour celles qui vont travailler. À midi, elles reçoivent une ration alimentaire, et puis le soir, nouvel appel. Le travail à Ravensbrück consiste en une journée de travail de 12 heures, notamment dans les commandos, les groupes de travail, ou après dans les camps annexes. Et il faut savoir que pour les nazis, hein, cet afflux important de déportés, c'est un afflux donc important de main-d'œuvre. Quand on parle de ration alimentaire donc, qui est reçue dans la gamelle que vous voyez ici, qui fait partie des collections du musée. La ration, en fait, s'élève à peu près à 856,5 calories. Donc on est bien tous d'accord que c'est une ration très, très faible, en fait, hein, une calorie vraiment trop faible, pour des femmes qui vont travailler 12 heures par jour, qui reçoivent le matin une sorte de café, puis une soupe le matin et le soir, et 200 à 250 grammes de pain. Au camp de concentration, Conchita, elle va rencontrer la mort. Plutôt, elle va traverser la mort. Les morts naturelles, par maladie du typhus, la dysenterie, et surtout ne jamais se rendre au revire, c'est-à-dire ne jamais se rendre à l'infirmerie, qui est en fait un mouroir. Elle va également connaître les morts programmées, les expériences médicales sur les lapins. Donc Conchita est très étonnée quand elle entend ce mot-là. Elle pense qu'il s'agit d'animaux, et non. Elle va découvrir qu'il s'agit d'étudiantes, de jeunes étudiantes polonaises, à qui les nazis, en fait, ont opéré et ont inoculé des maladies. Et ils vont essayer, coûte que coûte, en fait, de les cacher, de les protéger. Elle va également voir la mort d'enfants, et ça, elle ne le pardonnera jamais. Elle en parlait toujours, et notamment la mort d'enfants dans le camp. Elle estime que, elle, si elle a été déportée, c'est parce qu'elle a résisté, parce qu'elle a lutté, parce qu'elle s'est opposée, donc parce qu'elle avait fait quelque chose. Mais elle estime que les enfants, eux, étaient innocents. Et notamment, elle se rappelle de cette petite fille tzigane qui avait été stérilisée et qui pleurait dans le bloc qu'elle occupait avec ses camarades. Mais malgré tout, ces femmes, elles vont rester dignes. Et par tous les moyens, en fait, elles vont lutter. Et elles vont lutter contre cette déshumanisation. Elles vont d'abord continuer à se laver. Ça, pour nous, ça nous paraît être anodin, mais pour elles, c'était beaucoup, en fait. Il n'y a pas assez de lavabo pour tout le monde. L'eau est froide. Il n'y a pas de serviettes. Mais Conchita a la chance d'avoir ce petit bout de savon. Elles vont garder une humanité présente. Elles vont continuer. Elles vont faire en sorte de ne pas se laisser aller. Et puis, pour rester le plus humain possible, se rattacher le plus possible, en fait, à quelque chose qui serait normal, de la normalité, si on peut appeler ça comme ça, le dimanche, elles vont organiser des activités intellectuelles, des activités artistiques. Elles vont notamment, en fait, réciter des poèmes. Elles se rappellent des fables de La Fontaine. Mais Conchita a participé aux conférences, notamment celles qui étaient sur les fleurs, puisqu'elle avait l'habitude de se promener avec sa famille, en montagne, et donc elle était en mesure de parler des fleurs. Elle a également pu, pendant un certain temps, conserver avec elle un petit cahier et un crayon sur lequel elle écrivait des recettes de cuisine et des souvenirs. Mais malheureusement, lors d'une fouille, il va lui être confisqué. Et Conchita, ce dont elle parlait toujours lors de ses témoignages, c'était de fraternité. C'était de cette sororité, de cette solidarité entre les femmes. J'ai mis à l'écran le poème « Fraternité », puisque avec Conchita, on avait convenu que dans la maîtrise, on rendait aussi hommage à ses compagnes de déportation. Et on l'a fait, en fait, en insérant dans la maîtrise des témoignages, pas que des témoignages écrits, mais il y avait également les dessins que vous avez pu voir, et aussi ce poème. Je ne vais pas lire la totalité du poème, parce que c'est un petit peu long, mais je vais vous lire juste deux strophes. « J'ai oublié ton nom, ton visage, tes yeux. Je sais pourtant que nous étions à deux pour tirer le rouleau qui écrasait les cendres, et que tu me parlais avec des mots très tendres de ton pays lointain, d'avenir, de beauté. » Et elle concluait en disant « J'ai oublié ta voix, ta prière et ton nom, mais je sais que ta vie dont tu fis don, n'a pas été perdue et n'est pas effacée, qu'elle vit et revit dans la fraternité. Et Conchita, à chaque fois qu'elle témoignait, elle disait qu'elle le faisait et qu'elle le faisait pour ses compagnes, qu'elle avait fait cette promesse de raconter et qu'elle le traduisait de cette façon-là. Et puis, elles vont partir en fait en commando, en fait, comme je vous l'expliquais, hein, ces camps annexes en fait, qui dépendent d'un grand camp, et elles vont partir au commando de Buchenwald, novembre 1944. 600 femmes sont donc affectées au commando de Henkel, en banlieue donc, de Berlin. Et là, elles vont travailler en fait, pour l'aviation, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, en alterné. Et Conchita donc, s'occupait de coller en fait, un papier rugueux sur les pièces de métal. Et chaque fois qu'elle pouvait saboter, elle le faisait, elle détraquait la machine. Seulement un jour, elle va se faire reprendre et elle va notamment être tondue. Fin mars, début avril 1945, l'usine donc va être bombardée. Les barbelés ne fonctionnent plus et les déportés donc s'enfuient. Malheureusement, elles vont être reprises par les SS qui vont leur faire traverser Berlin, qui est à ce moment-là en fait en ruine. Et là, elles vont connaître ce qu'on appelle les marches de la mort. On est le 22 avril 1945. Elles sont évacuées à pied sur les routes en direction de la Baltique. Elles vont apprendre en fait plus tard que c'était pour les faire monter sur des bateaux et que ces bateaux en fait les SS les feraient donc exploser plus loin pour qu'il n'y ait plus en fait de traces de ces témoins. Elles sont épuisées. Elles marchent toute la journée. Deux distributions de nourriture seulement où elles recevront en fait du pain. Sa mère qui est en fait très fatiguée va se cacher en fait dans une grange. Et là, Conchita raconte que même si c'est un événement très dur, c'est là où elle va connaître ses plus beaux moments de fraternité. C'est pourtant là que j'ai connu la plus belle page de fraternité, de solidarité entre nous. Si vous saviez comme nous nous sommes entraidés pour ne pas finir dans les fossés. On se traînait lamentablement, mais on se soutenait, on s'appuyait, les plus faibles sur les moins diminués. C'est le plus beau souvenir que j'ai gardé de cette atroce période, malgré les circonstances, alors qu'on pouvait penser que dans ces conditions extrêmes de survie, chacun veuille sauver sa peau, parfois même aux dépens des autres. Une fusillade va éclater alors qu'elle se trouve en fait au bois de Bello, près de Griwitz. Et là, en fait, elles vont apercevoir derrière elles, alors qu'elles essayent de rejoindre une ferme, les tanks russes. Et là, c'est la libération pour Conchita. Nous sommes le 3 mai 1945. Mais elle est seule, puisque sa mère donc, et Marie là, ne sont pas avec elle. Elles vont être prises en charge par les Russes, par les Américains, puis elles vont être rapatriées vers la Belgique, et là, elle va retrouver sa mère. Le 20 mai 1945, Conchita est à Lille, où elle va recevoir sa carte de déportée et un repas. Elle se rappelle très bien de ce repas. Elle le racontait toujours quand elle témoignait ici. C'était de la purée et de la viande. Elle pèse alors 36 kilos. Il y a une photo que vous pouvez voir ici de Conchita. Merci beaucoup. Quelque temps après en fait, son retour, et quelqu'un de sa famille s'amuse à lui dire qu'elle avait en fait, le nez qui était transparent. Là, donc, à l'hôtel, elles sont accueillies à Paris, à l'hôtel Lutetia, qui est la plaque tournante en fait, pour l'arrivée des déportés. Et puis donc avec sa mère, pas avec Marie, malheureusement, qui est hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière, elles vont se rendre vers le sud. Mais à Toulouse, elle sera appelée donc à la gare par quelqu'un de sa famille. Et puis à nouveau contactée, puisque Marie en fait va mal. Et Marie décédera le 16 juin. On peut se demander alors si le retour en France pour Conchita et pour les déportés est un retour à la vie. Les déportés vont rencontrer, comme vous en doutez tous, de nombreux problèmes de santé, à la fois physiques et psychologiques, dus à la déportation, dus aux épreuves. Conchita considère qu'il lui a fallu 7-8 ans environ pour reprendre pied. Conchita avait fait la promesse aux plus âgés de revenir. Elle avait fait la promesse, en fait, de témoigner avant tout. Mais ce qu'il faut savoir par rapport en fait à la déportation, pour raconter cette déportation, c'est plus que l'indicible. La déportation relève de l'incompréhensible. Ils veulent le témoigner, oui, mais quel mot en fait utiliser? Vous avez un extrait ici d'un poème qui a été écrit donc par Charlotte Delbo, où elle dit « Vous voudriez savoir, poser des questions, et vous ne savez pas quelles questions. Et vous ne savez pas comment poser les questions. Alors vous demandez des choses simples, la fin, la peur, la mort, et nous ne savons pas répondre. Nous ne savons pas répondre à vos mots, à vous. Et nos mots, à nous, vous ne les comprenez pas. » Voilà toute la difficulté rencontrée pour témoigner. Les mots n'ont pas le même sens. Pourtant, Conchita, qui au départ, en fait, hésite à témoigner. Elle se rappelait très bien que dans sa famille, on racontait les récits des anciens combattants. Et ça l'agaçait un peu. Elle le disait souvent. Donc, elle ne voulait pas faire pareil. Et puis, finalement, elle va échanger avec d'anciens déportés comme Sylvain Doriac. Et elle va décider de témoigner. Elle va le faire à partir de 1972. Et là, elle va raconter son histoire, en fait, à Sylvain Doriac et d'autres déportés, et ils vont l'aider, ils vont l'accompagner pour qu'elle puisse, elle aussi, en fait, pouvoir témoigner. Elle s'est également rendue dans les établissements scolaires, mais Conchita préférait témoigner ici, au Musée de la Résistance. Elle considérait que c'était important, en fait, qu'il y ait une partie plutôt historique, on va dire, où il y avait une remise en contexte, en fait, parce qu'elle expliquait qu'il fallait quand même avoir certaines notions pour pouvoir écouter un témoin. Et elle témoignait, Conchita, avec M. Campoursi, qui était un professeur d'histoire-géographie à la retraite. À partir de 1988, Conchita va participer au voyage des lauréats du concours de la résistance et la déportation, qui a été créé dans les années 1960. Et Conchita donc, se rendait au camp de concentration. Et elle se rendait, bien sûr, à Ravensbrück. Et là, à chaque fois, elle pensait à ses compagnes. Elle revoyait ses compagnes, dont les cendres, en fait, sont dans le lac de Ravensbrück. Et Conchita, elle a voulu témoigner parce qu'elle croyait profondément en cette jeunesse. Elle croyait profondément que cette jeunesse allait prendre le relais, et elle l'a fait, cette jeunesse, pendant longtemps, en fait, en venant l'écouter aussi au musée et après en racontant. Puisque, comme le disait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, celui qui entend un témoin devient témoin à son tour. Je voudrais conclure mon intervention. Alors, je m'excuse si je n'arrive pas jusqu'au bout, si je suis prise par l'émotion, mais Sol prendra le relais. Par une archive personnelle de Conchita, donc un discours qu'elle avait rédigé alors qu'elle devait se rendre en fait avec des élèves au camp de Ravensbrück. Il y a 56 ans, nous vivions les derniers jours d'un enfer qui, pour certaines d'entre nous, avait duré 2 ans. Sur le territoire de l'Allemagne, les troupes alliées libéraient le pays du nazisme monstrueux. Mais de nombreux déportés ne connaîtront jamais les joies de la libération des camps, ainsi que nos compagnes dont les cendres reposent au fond de ce lac. C'est vers ces femmes et ces enfants que nos pensées s'élèvent aujourd'hui, et vers toutes celles qui nous ont quittés depuis le retour. En ce lieu, nous avons connu la faim, la misère, le travail harassant, 12 heures par jour, dans le froid, la déshumanisation systématique du régime nazi. Nous y avons côtoyé la mort, mais nous avons connu aussi la vraie valeur des mots, amitié et fraternité, qui ne se rencontrent que dans les conditions extrêmes où nous vivions. Des liens très forts entre nous se sont créés, ils existent toujours malgré les années passées. Nous ne pouvons oublier les expérimentations médicales faites sur nos camarades polonaises et tziganes. Vous, les jeunes, qui visitez ce camp pour la première fois, il sera de votre devoir de transmettre la flamme du souvenir. C'est pour cela que nous, qui l'avons vécu, continuons à témoigner. Merci.
Merci beaucoup, Virginie, pour ce témoignage et pour cette intervention très émouvante. Merci beaucoup.
Mémodio, une mémoire sonore.
On va laisser la parole à Henri Farini et pour la dernière intervention. Et comme on a fait tout à l'heure, on aura un petit temps d'échange après.
Bonjour, merci aux organisateurs et merci au public. Merci aux intervenants précédents. Alors pour ma part, je vais parler, en principe 20 minutes, comme tout le monde, donc de la vie de Conchita, mais par-delà, pour compléter, en complément donc, de ce qu'ont dit les précédents intervenants, l'action dans les associations de Conchita qui a été multiple. Et son action n'a pas été que du témoignage, enfin c'est la particularité de mon intervention, c'est qu'elle a été dans l'action pour faire connaître l'histoire, la sienne et celle de ses semblables. Donc c'est de ce point de vue que je me place et c'est évidemment un point de vue particulier. Alors d'abord, en ce qui concerne la résistance des Espagnols, il est important en quelques mots de rappeler que les Espagnols, républicains, exilés, réfugiés politiques, c'était l'appellation officielle, donc se sont engagés en proportion au nombre qu'ils étaient, très nombreux et très tôt dans la résistance. De la retirada, il ne restait que, disons, un tiers, environ 150 000 personnes, hommes, enfants, etc. Et donc, quand on voit le nombre de gens espagnols qui se sont engagés, évidemment, avec leur histoire, ils avaient des raisons, mais aussi ils avaient un courage spécifique. Donc, en zone occupée, des Espagnols participent à la lutte armée, pas que la lutte politique, hein, je vais très vite, mais la lutte armée dans des groupes de la main-d'œuvre immigrée. Et ces groupes existent à partir de août 1941 jusqu'à la création des FTPF, les FTP français, francs-tireurs partisans. Et ça, la date à retenir, je le dis dans ce musée parce que souvent on entend des choses différentes, ce n'est qu'à partir d'avril 1942, les FTPF. Et les FTP-MOI, ce n'est qu'à partir de juin 1942 en région parisienne. Ces éléments-là, donc, que j'évoque pour la zone occupée, se complètent par une organisation différente en zone libre. La zone est libre jusqu'au 11 novembre 1942, comme vous savez, donc notre région en particulier. Et là, en zone libre, à partir de la fin 1941, d'anciens officiers du 14e corps de guérilleros en Espagne, qui était un corps spécialisé, un corps d'armée, donc dans lequel des gens exécutaient des coups de main à l'arrière des lignes ennemies, des lignes franquistes. Ce 14e corps, donc, ce sont d'anciens officiers qu'on va chercher dans la clandestinité. Tout ça se fait d'une manière qui est encore aujourd'hui pour partie non décrite. Il n'y avait pas de notaire, il n'y avait pas de procès-verbaux. Et donc, département par département, éclose des brigades départementales de guérilleros. En Ariège, c'est une des premières avec l'Aude. Ça se passe au printemps 1942 et ils sont quelques dizaines au début. Mais dans l'Aude, par exemple, à la fin 1942, le chef de la deuxième, de la brigade de l'Aude, qui était la Quinta Brigade, il compte dans un carnet, en mémoire de l'époque, plus de 200 hommes organisés et répartis en bataillons dans le département. Donc, cet élément historique sur la constitution des guérilleros, on ne peut que le dire rapidement ici, mais c'est dans ce cadre qu'agissent Jaime Belet, ou Jaume en catalan, le père, donc de fait, l'oncle de Conchita, et sa femme, Elvira, et sa cousine, donc à Conchita, qui s'appelle Maria. Donc ici, je présente une photo qui est très peu représentée, mais c'est le premier chef de la brigade qui portait le numéro 3, 3e brigade de guerriers de l'Ariège, Victor Vicuña, c'est un basque. Il a une très belle histoire qui est très peu connue. J'aimerais bien que dans ce musée, on mette le projecteur un jour sur lui. Il a écrit un livre de mémoire. Et cet homme, il a été lieutenant-colonel FFI à la Libération. Et c'était le chef du premier groupe de guerriers de l'Ariège. Un autre homme va compter beaucoup, et je vais y revenir plusieurs fois, c'est Jesús Ríos, qu'a mentionné Josep dans son intervention. Jesús Ríos, son vrai prénom, ce n'est pas Jesús, mais on ne rentre pas dans les détails, c'est le premier chef, non pas d'un groupe, non pas de la brigade d'Ariège, là je pense qu'il faut élargir, hein. C'est le chef de l'organisation nationale des guerriers, en tout cas l'organisation nationale du point de vue de la zone libre, qui après ne sera plus libre, mais enfin ça fait déjà de nombreux départements. À la fin, ce que a commencé à monter Jesús Ríos sera organisé dans 31 départements. D'accord ? Donc il est le chef, il habite Carcassonne à ce moment-là, quand on lui demande de devenir le chef, et il vient habiter donc en Ariège, pas très loin de là où habitait la famille Belletta, c'est-à-dire lui il habite à Dalou, et eux ils habitaient donc à Gudas, hameau de Peigny, comme Josep l'a très bien indiqué. Alors, il se trouve que fin avril 1943, dans des circonstances qui mériteraient une conférence de 2 heures qu'on n'a pas le temps de faire ici, fin avril 1943, il y a une frappe policière qui décapite l'état-major national qui était rassemblé en Ariège. Il y avait la moitié des 50 et quelques arrêtés, ce sont des gens de l'état-major national, et l'autre moitié, ce sont des gens d'une brigade spéciale à côté de la 3e brigade d'Ariège, qui était une brigade de protection de l'état-major. Donc, ce gros coup qui a été porté, encore une fois, qui mériterait de nombreuses explications, touche en particulier Jesús Ríos. Dans la liste que vous voyez de loin, là, il y en a un qui s'appelle Martín Marillo. En fait, c'est un faux nom, c'est Jesús Ríos. Ce coup-là, donc, désorganise. Bien sûr, il y a ceux qui sont arrêtés. Il y en a plusieurs dizaines qui fuient. Victor Vicuña fuit et il va aller organiser les guérilleros dans le département des Hautes-Pyrénées. Hautes-Pyrénées d'abord, et puis après Pyrénées-Atlantiques, qu'on appelait Basse-Pyrénées. Vicuña. Conchita, sa tante et sa cousine sont sollicitées pour prendre la suite parce que Jaime Beleta, lui, se met à l'abri. Il avait l'habitude de se déplacer et il va se cacher dans l'Andorre, en Andorre, comme tu l'as indiqué, Joseph. Conchita devient agent de liaison pour l'état-major de la 3e brigade. Et ceci sera confirmé par un document que je montrerai rapidement. Alors, Joseph a donné des exemples de ce que pouvait être l'activité de Conchita. Bon, là, il y en a un qui est rapporté avec précision dans le livre que je montre ici à l'écran. Celui qui est interviewé, là, c'est José Alonso Alcalde, plus connu sous le nom de commandant Robert, qui va être l'un des responsables de la 3e brigade de l'Ariège lors de la libération de l'Ariège. Ça ne sera pas le chef, ça sera le chef d'état-major. Là aussi, il y a quelques confusions. Je rappelle que le chef de la brigade d'Ariège au moment de la libération, c'est un certain Royo, commandante Royo, Pascual Jimeno Rufino, qui repart en Espagne combattre et qui finalement meurt tragiquement en 1945. Donc Robert, lui, était son adjoint. Ben, Robert, dans ce livre, témoigne que quand il arrive à Varilhes en novembre 1943, l'agent de liaison qui vient le chercher, qui le conduit au col de Pie, c'est Conchita Ramos. C'est d'autant plus important de le savoir qu'après, quand les gens vieillissent, et Robert a vieilli comme tout le monde, comme moi, comme vous, comme tout le monde, quand ils vieillissent, ils ont parfois d'autres discours, mais les paroles écrites les rattrapent. Donc, malgré les différences que l'on peut voir à la fin de la vie dans les déclarations de Robert, Conchita, c'est elle qui est venue le chercher, et elle m'a raconté de vive voix dans quelles conditions ils ont cheminé jusqu'au col de Pie. Donc ce témoignage, on le trouve dans ce livre, que vous pouvez encore obtenir sur des services de livres d'occasion. Je voudrais montrer quand même, parce que parler de Conchita, c'est l'occasion, comme vous l'avez fait chacun à votre façon, de parler des autres personnages, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Et en effet, c'est important de mettre aussi l'accent sur les femmes. Alors bien sûr, parmi les guerrilleros ou guerrilleras, on n'a pas l'habitude de dire guerrillera, hein, guerrillera, mais on devrait le dire aussi. Eh bien, il y a Elvira et Maria, donc la tante et la cousine, en sont. On en parle beaucoup moins d'elle que de Conchita. Et quelque part, Conchita me le disait. C'est quand même dommage. Parce que Marie en particulier, qui avait 15 ans de plus, quand elle est revenue, elle est morte peu après son retour. Et puis, il y a ce personnage de Jesús Ríos. Alors là, je voudrais en dire un peu plus aujourd'hui. C'est une première mondiale, je ne blague pas. Parce que je vais montrer une photo. Cette photo-ci là, de Jesús Ríos, c'est celle que nous montrons dans les manifestations depuis longtemps. Jefe national, comandante national del 14 Cuerpo de Guerrilleros en Francia. Donc, ce n'est pas un petit groupe, ce n'est pas la brigade. Non, non, c'est un personnage. On était allé le chercher parce qu'il avait été, en tant que militaire actif, il avait su aller au charbon, comme on dit chez les militaires. Il était qualifié. Eh bien, cette photo-là, celle-là, on ne la montre pas beaucoup. Elle est connue, néanmoins, des experts. Et l'enfant qui est dans les bras avec cette houppe et cette mine qui est quand même tragique et qui traduit quand même que la photo du printemps 42, et Jesús Ríos ne va pas survivre longtemps à cette date qui est marquée ici. Eh bien, la petite fille qui est là, je vous demande de l'applaudir, oui, mais c'est la première fois, vraiment. Elle est ici, Laure Ríos, la petite fille qui n'a connu son père que quelques mois. Ici, tu avais 6 mois, et par la suite, donc, quand il est mort, tu n'as pas de souvenir de lui. Donc, vous voyez, ça serait quand même important qu'on est en 2025. Et ça fait longtemps que nous parlons de Jesús Ríos. Et que ça soit dans ce sympathique musée dans lequel nous avons travaillé depuis longtemps. Conchita elle-même fut une des fondatrices de la première mouture de ce musée. Je l'ai présenté ce sujet-là le 6 septembre dans ce même lieu. Enfin, 50 ans vont passer hein, depuis qu'il y a eu un premier musée associatif devenu... Bon, et on n'a jamais eu le temps de parler de ce que fit Jesús Ríos et sa famille. Parce que c'est dur d'être la fille d'un martyr. Et là, nous avons un cas de figure. Et maintenant, une autre photo première mondiale que tu m'as confiée tout récemment. Celle-ci, on y voit Jesús Ríos un peu avant, c'est-à-dire en février 1941. Donc vous voyez, l'enfant n'était pas encore né, si je fais le calcul, puisque tu devais avoir 6 mois sur la photo, m'as-tu dit. Et là, on voit Jesús Ríos comme papa futur avec sa femme, que moi je connaissais d'après les bribes et les témoignages des gens comme Liberta, mais Liberta c'était son nom de guerre, de guerrière, parce que je rejoins ce qu'a dit donc Diego tout à l'heure sur le rôle des femmes, c'était une guerrière, elle était engagée politiquement depuis l'Espagne comme son mari dans la Juventud Socialista Unificada, et donc c'était une combattante, qui a accepté, qui a voulu, et qui n'a pas été simplement que le repos du guerrier. Elle a été une guerrière elle-même. Et donc là, il y a son vrai nom en plus. Elle s'appelait de son prénom véritable Barbara Rocafouille. Donc elle était d'origine aragonaise. Et puis, je mentionnerai ici, pour terminer, parmi les gens qu'a connu Conchita, avec lesquels elle a traité à ce moment-là, quand elle était en Ariège avant l'arrestation, je montre Herminia Puigsec, plus connue sous le nom de Herminia Muñoz. Parce qu'ici, à Toulouse et en France, Granger, rareté, rarissime, ceux qui connaissaient Conchita sous le nom de Granger. Donc on la connaissait tous sous le nom de Conchita Ramos, et d'ailleurs quand elle fait ses papiers pour demander un état de service à l'administration, elle le fait sous le nom de Ramos. Alors, le 24 mai, la maison familiale est attaquée, Jesús Ríos est grièvement blessé, il ne meurt pas tout de suite, même Conchita se trompe dans son témoignage en disant « il est tué », c'est un peu rapide, l'agonie dure 3 jours, il est mort le 27 mai. Parce que les Allemands l'interrogent, elle m'a raconté d'ailleurs, je n'ai pas le temps, qu'elle le rencontre dans un couloir et qu'il lui dit « ma petite, ça va être dur, il faut que tu tiennes bon, etc. etc. » Elle me l'a raconté plusieurs fois et il est mort au bout de 3 jours parce que les Allemands le maintenaient en vie pour l'interroger. Et donc il avait un tas de balles dans le corps, certaines disent une vingtaine de balles de mitraillette. Donc c'est vraiment un personnage. Conchita, sa tante et sa cousine sont arrêtées, un long calvaire commence, et je vous remercie Virginie d'avoir relaté avec beaucoup d'efficacité une partie de ce qu'on peut dire rapidement sur cette déportation par le train fantôme. Alors ici apparaît en bas une plaque qui était aussi dans ce que tu as présenté, Joseph, c'est la plaque qui avait été placée sur la maison de la famille de Belletta, et dans cette plaque, les gens qui l'ont mis... Écoutez, franchement, des fois, on se précipite, mais la plaque, elle est fausse. La date qui est dessus, mois de mars, c'est pas le mois de mars, c'est le mois de mai. Les Allemands, ils n'étaient pas là. Il y avait la milice, oui, mais pas la Gestapo. Et là-dedans, le nom des femmes, il n'y est pas. On parle de la famille Abelette, point. Donc, les gens qui ont fait ça, alors que Conchita, José et tous les autres, ils existaient, ils n'étaient pas loin, à Toulouse, ça, c'est pénible, quoi. C'est pénible parce que ça se passe encore en 2025 que des gens parlent au nom de ceux qui ont fait et à qui on ne demande pas leur avis. Et ça, c'est inadmissible. C'est un manque de rigueur, évidemment, bien sûr, comme vous l'avez souligné, mes amis, mais c'est aussi un manque de respect humain, quoi. Alors, la deuxième plaque qui est au-dessus, il a fallu attendre 2014 pour que le milieu associatif et l'amicale dont Conchita Ramos était secrétaire nationale adjointe, et à l'époque, il y avait 1 000 000 d'adhérents, anciens combattants tous, donc secrétaire national adjointe. Et ça, souvent, quand on parle de Conchita, on ne parle pas de cet aspect-là. Parce qu'elle ne s'est pas battue sainement pour parler de la déportation, elle s'est battue pour parler de la résistance qu'elle avait faite et du fameux mot de Lucie Aubrac que vous rappeliez tout à l'heure, « résister se conjugue au présent ». Alors, là, il y a des photos qui rappelleront des souvenirs à Marie-Hélène et à Christian. 2014, Conchita pour inaugurer la plaque, et en dessous, en 2016, rebelote, mais après, elle n'a pas pu revenir. Témoigner, transmettre. Transmettre, oui, l'expérience de la déportation, mais transmettre aussi l'expérience de la résistance. Et là, on a parlé de Neus Català. Oui, Neus Català, il existe une fondation Neus Català. Marguerite Català est membre de notre amicale, et dans le dernier bulletin, il y a un article d'elle, donc la fille de Neus Català. Le livre qu'elle a fait s'appelle « Témoignages de 50 femmes espagnoles ». Je résume le titre puisqu'il n'est pas pareil en espagnol qu'en français. Alors en français, c'est « De la résistance à la déportation » et en espagnol, c'est « De la résistance et la déportation ». En Espagne, en 84, il est sorti. Donc on avait le temps quand même d'en parler et de faire des conférences dessus, même si Margarita est venue il n'y a pas longtemps. Ça pouvait être depuis longtemps qu'on aurait pu faire ça, et dans de grandes salles, parce que c'est pas, ce musée fait tout ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais il y a de grandes salles. Alors donc, c'est plusieurs éditions, d'ailleurs il y en a peut-être au-delà de 2015, mais que je ne possède pas. Oui, alors je montre maintenant que alors la photo 1945, quand elle fait 36 kilos, que vous avez montré, Virginie, et puis ici 1947, une autre photo inédite, je remercie André Magne, avec qui nous collaborons d'ailleurs, pour le montage que j'ai fait ici. Merci à toi, André. Dans cette photo-là, peu connue, 1947, à la date où elle signe les documents, donc elle n'a pas attendu 10 ans ou 15 ans, elle fait partie des gens qui se sont mobilisés comme se sont mobilisées Marie-Claude Vaillant-Couturier et d'autres femmes, simplement à l'époque, des femmes à l'Assemblée, il n'y en avait pas beaucoup, et il y avait des groupes qui arrivaient à mettre des femmes à l'Assemblée et d'autres non. Donc elle se bat pour faire reconnaître ce qu'elle a été, et là, j'insiste, dans les documents officiels qui sont au service historique de la Défense à Vincennes, la seule organisation dont elle dépendait, dont elle dit qu'elle dépendait, parce qu'il a couru plein de choses variables, c'est bien la 3e brigade de guérilleros de l'Ariège. C'est les documents officiels. Et ce n'est pas toujours facile de les obtenir à l'époque dans ces conditions. Donc il y a des certificats, elle était classée comme sergent. Bon, tout ça est important. Alors, elle fut un grand témoin du musée. J'ai montré une photo qui élargit celle que tu as montrée, Virginie, que vous avez montrée, pardon, sur le rôle qu'elle a joué au musée. Alors, elle a été très active dans le monde qu'on appelle aujourd'hui de la mémoire combattante, le monde combattant, hein, disent les élus. Donc ici, je la montre parce que sur cette même photo saisissante, elle est au milieu avec une autre femme résistante qui s'est battue dès la libération et ses amis ont fait parler d'elle dès la libération, c'est Angèle Bettini, qui a quand même le parvis. Alors on la connaît sous le nom de son mari, hein, Bettini, elle c'est Del Rio, Angela Del Rio. Donc on l'a bien connue, Angelita. Et donc... On voit ici aussi José, parce que s'il est vrai qu'il faut parler des femmes et des maris, mais il faut parler aussi des maris parfois. Hein. Et donc, comme José, il a été le mari toute sa vie de Conchita, hommage à José también. Hein, je crois qu'il faut le faire. Et donc, ces trois personnages sont aux obsèques de celui qui est à droite, là, Vincenzo Tonelli, brigadiste italien, hein, qui s'est tapé la guerre d'Espagne, qui a été enfermé au Vernet. Les Italiens sont venus le chercher, on l'a mis en prison, la résistance italienne l'a délivré, et ils l'ont mis sur un bouclier pour qu'il soit le chef. Donc 10 ans de guerre pour Vincenzo Tonelli. Et tous ces personnages, Conchita les a connus, tous ces personnages, elle les a fréquentés, et c'est l'occasion de les citer. Rafael Gandia, il y aurait, n'est-ce pas, tout un poème à réciter, tu brûles de le faire, Pilar. Après, José Falco, qui était le responsable des aviateurs. Non, pardon, il faut que je fasse mon temps. Après, il y a Francisco Folk, un autre responsable qui est mort. Et puis, il nous reste ici. Alors, quand est-ce qu'on va le faire venir? Je ne sais pas si on va y arriver. Parce que moi, j'ai réussi, quand il a eu 100 ans, de le faire venir à la salle des illustres au Capitole. Certains s'en rappellent. Mais il va faire 107 ans, cet homme. Jesús García. Bon, alors, donc je dis que, vous voyez, dans le monde de Conchita, dans le monde de combattants, il n'y avait pas que des gens qui pleuraient sur ce qu'ils avaient subi, et il fallait le faire, mais il y avait des gens qui ont continué à combattre pour leurs idéaux, pour les mêmes idéaux qu'à l'époque. Alors, les activités commémoratives traquent justement là, ben ça c'est l'inauguration de la place Vincenzo Tonelli, le square ou le jardin qui se trouve à la Roseraie. Nous, on s'en rappelle, mais certains ne savent même pas qu'il existe, c'est dommage. Et puis ici, à gauche, en bas, vous avez Ange Alvarez, le premier évadé du train fantôme, qui a été commandeur de la Légion d'honneur, qui n'a jamais été invité dans ce musée. Jamais. Mais ce n'est pas la faute aux gens d'aujourd'hui, hein, mais il n'a jamais été invité. Alors j'avance vite. La photo d'avant, quand même, si. Tout en bas, c'est le Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, à Prayols. Ce n'est pas rien. Et j'ai presque terminé. Ici, dans ce bulletin, on rappelle les activités de l'amicale... J'ai l'honneur de présider en 2011, 80e anniversaire de 31 de la République. Et vous voyez que 2000 personnes réunies à Isle-sur-Tête. Et bien sûr, Conchita Ramos, elle était au milieu. Elle était venue, comme d'autres qui étaient venus. Il y avait une femme qui est en photo, qui est venue avec 107 ans donc, à Isle-sur-Tête. Donc, elle a soutenu les travaux de l'amicale pour réparer les lacunes et erreurs. Par exemple, on parle beaucoup du train fantôme, mais il a fallu que ce soit une association, la nôtre, qui découvre, et facilement, on fera ça à une conférence une autre fois, qu'il y avait 68 personnes qui avaient été dans le train fantôme, qui s'étaient évadées et qui n'étaient comptées nulle part. Mais on les a retrouvées. Et au bout de 5 ans de bataille, on les a fait inscrire dans les livres correspondants. Voici José et Conchita, ici. Elle a aidé Conchita non seulement à témoigner sur ce qu'elle a vécu, mais elle a aidé à ce qu'on mette à jour les noms des autres, les 68 qui manquaient. Et il en manque encore dans notre convoi, et c'est faute de temps et de moyens que nous ne pouvons pas nous en occuper. Il y a, en 2012, ça fait 13 ans, on a fait une conférence, André Magne était là, la preuve, il y a la photo, vous voyez, et il y avait Conchita, et on a présenté ses travaux, il y a 13 ans. Alors quand j'entends dire que demain, peut-être, on fera je ne sais pas quoi sur le train fantôme à Toulouse et que nous qui avons travaillé, qui avons fourni tout ça, on n'est pas au courant, je profite pour dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis. Si on veut écrire l'histoire, il faut être réunis et pluriel. Donc je fais ici, dans le sillage de ce qui a été l'intervention de Diego, donc sur les femmes, Oui, Conchita, guerrière, déportée, eux, militante, la cause des femmes aussi à travers Conchita, mais en nommant les autres. Celle que je mets en haut, je ne le répète pas parce que je suis en retard, pardon à vous tous, mais ces quatre femmes-là, vous voyez, comme Conchita, elles mériteraient qu'on leur fasse les 100 ans ou les 50 ans, enfin, etc. Et puis, il y a d'autres guerrières, voilà, j'en cite quatre, je termine là-dessus, qui, trois d'entre elles ont été à la prison de Saint-Michel, trois d'entre elles. La quatrième, elle n'y a pas été, mais elle a combattu à Toulouse. C'était une guerrière dans l'action de la lutte armée. Et pas forcément en tenant un flingue, mais en aidant ceux qui tenaient les flingues. Je vous remercie. Je termine en disant que même sur les drapeaux que nous invoquons, il y a des femmes. Hein, il y a la Marianne d'un côté et la Nia Bonite de l'autre côté. Voilà, qu'on y réfléchisse. Merci.
Pardon. Merci beaucoup, Henri. Et Christian Ramos, le fils de Conchita, Marie prend la parole.
Moi, je ne parlerai pas de tout ce que vous avez dit, parce que vous l'avez bien dit. Je parlerai uniquement de la vie de ma mère après la libération. J'ai connu tout ce qu'elle a fait pendant la guerre, pas par elle, parce qu'elle en parlait très rarement à la maison, sauf s'il y avait des invités qui étaient des invités de la guerre, des combattants, des anciens combattants, etc. Mais sinon, elle n'en parlait pas. J'ai appris beaucoup de choses parce qu'il m'a mené souvent aux conférences, au congrès des déportés, aux associations des déportés. J'ai connu pas mal de femmes déportées, notamment Simone Omba, qui était la présidente de l'Allier. J'ai connu d'autres, Bruno Ferré, le président de la FNDR. J'ai connu beaucoup d'autres gens, des Espagnols, j'en ai beaucoup aussi. Et je voudrais dire aussi que Conchita a eu toute sa vie le traumatisme du cas. Parce que c'est une femme que j'ai toujours connue, qui dormait très peu, qui tous les matins se levait un peu avant 6 heures et se mettait presque au garde à vous, comme si c'était l'appel pendant aucune concentration. Ensuite, je voudrais dire, par rapport à un de mes neveux, qui s'appelle Yannick, qui est là présent. Et quand ma mère lui a demandé qu'il lui pose des questions sur la déportation. Et il y a eu une cassette qui a été faite. Hein, et je ne l'ai pas retrouvé. Bon, Yannick m'a expliqué pourquoi, mais bon, c'est personnel. Bon. Et c'est là que elle parlait davantage avec les gens extérieurs de la famille qu'avec la famille. Ensuite, je veux dire, par rapport à mes parents, ils ont perdu 10 ans de leur jeunesse entre la guerre d'Espagne et la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, je suis ravi qu'elle ait une reconnaissance. C'est ce que j'ai dit à Cabella le 9 août, quand on a inauguré la place à la Torre de Cabella, à Central, que ma mère a aimé son pays natal d'un côté des Pyrénées et son pays d'adoption de l'autre côté des Pyrénées. C'est tout ce que je voulais dire.
Monsieur Ramos, on vous remercie énormément. Et dans cette salle, il y avait personne qui connaissait mieux que vous, Conchita Ramos. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir entendu.
Mémodio, une mémoire sonore.
On va ouvrir de nouveau un petit bord de scène. On va essayer de ne pas trop traîner, parce qu'après, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a un petit pot convivial. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Ça peut concerner également la première partie des interventions de la table ronde.
Moi, je propose que tu dises un mot quand même, Laure. Je sais que ça te coûte, mais voilà, tu es la petite fille à la houppe et au regard étonné là. Bon, c'est important qu'on mesure que avoir plongé dans l'oubli jusqu'à aujourd'hui, socialement, tous ensemble, j'accuse personne en particulier, mais c'est pas bien, quoi. Et tout ça résulte d'un manque de rigueur, et je reviens au mot là, que utilisait tout à l'heure Diego. En histoire, il faut de la rigueur, il faut du travail, il faut des moyens pour ceux qui travaillent l'histoire. Ceux qui travaillent l'histoire, ce sont les sachants académiques, d'abord. Et après, il y a les sachants populaires qui en font beaucoup aussi de l'écriture de l'histoire. Parce que se mêler de travailler en histoire, d'abord, c'est commun à toutes les disciplines scientifiques qui est des gens qui ne sont pas passés par l'académie. Mais en plus, en histoire, c'est plus naturel pour des tas de raisons que je ne développe pas. Donc, il est important que, Laure, tu donnes peut-être un écho. Je profite qu'il n'y a pas eu de question pour devancer. Que tu dises un écho. On a donc un bon quart d'heure, donc je pense qu'on peut l'utiliser sur ça et sur ton intervention, bien sûr.
Bonjour à tous. Juste un petit mot pour vous dire, bon, je n'ai aucun souvenir de mon père ni de mon enfance. Hein. J'étais bébé, quoi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que maman ne m'a jamais, jamais, jamais raconté ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a passé depuis la guerre d'Espagne 1936. Jusqu'à la libération, je ne sais rien. Elle ne m'a jamais dit. Je pense qu'elle voulait me protéger et que peut-être elle voulait oublier la misère dans laquelle elle a vécu. Par conséquent, je ne suis au courant de tout ce qui s'est passé que depuis que je vais dans certaines conférences, depuis que je vais à l'amicale. Mais autrement, je ne saurais rien. Par des livres, des fois des livres espagnols, parce que là, il y en avait pas mal. Mais je regrette sincèrement, parce que je me sens démunie et vraiment triste de ne pas connaître davantage, surtout la vie de mon père. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Merci.
Merci. On a...
Bon, mais...
Allez-y. On vous écoute.
On me demande de parler, alors je vais parler.
On vous propose, parce que je voyais que vous avez envie. Est-ce que vous voulez?
Il faut un moment aussi.
Voilà, c'est ça, c'est voilà. Pour ça que je voyais que vous avez envie et je vous ai proposé.
Ah, pardon, on m'a proposé.
Voilà.
Non, mais écoutez, merci beaucoup à tous de ces moments très émouvants. J'ai toujours dit que l'histoire, elle est toujours en retard, c'est la preuve, parce que pendant 40 ans, ben, on ne parle pas beaucoup, on avait les silences, et c'est une histoire que, comme j'ai déjà dit, ça va demander quelques générations pour que cette histoire soit réellement connue et qu'elle soit intégrée officiellement dans l'histoire de l'Espagne. L'histoire des républicains, il faut qu'elle soit intégrée réellement, officiellement, dans l'histoire de l'Espagne pour que voilà, c'est l'Espagne a son histoire et il faut lui donner toute la reconnaissance dans toute son ampleur. Parce que sinon, j'ai toujours dit que l'histoire de l'Espagne, si vous permettez, elle sera un peu boiteuse. Je vous l'ai dit dans mes mots. Je n'ai pas des mots scientifiques, mais je vous l'ai dit comme je le sens, comme je le pense. Et grâce à tous ces mouvements qui sont créés depuis en France et toujours, en Espagne un peu plus tard, mais aussi il y a eu beaucoup de républicains, des politiques, des partis dans la clandestinité qui passaient en Espagne et qui passaient des informations, puisque je viens aussi d'une famille républicaine. Donc, mais j'étais gamine, moi je suis née après, je suis née en 45. Vous voyez, je vais faire mes 80 ans. Donc, je suis avec la libération. OK? Alors, c'est un peu prédominant, ça. Hein? Bon, mais merci beaucoup. Continuez avec tout ce courage. Et voilà, je crois que nous sommes tous avec vous. Et que vous savez peut-être, les historiens, il y a aussi avec, on va dire, le progrès, si on peut dire le progrès, il y a cette recherche, il y a une vision un peu différente. Et c'est bien, parce que les visions, on peut le, comment vous dire, on peut pas le confronter, il y a un autre mot, mais voilà, dans la même vision, on peut trouver une harmonie qu'il va dire mais la réelle histoire. Voilà, je sais pas si c'est ce que j'ai dit, c'est bien ou c'est mal, mais je l'ai dit. Merci beaucoup.
C'est très très bien ce que vous avez dit. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou...
Oui, alors là, nous sommes dans le constat, mais il faut pousser en avant et que les jeunes, et là ce soir, on n'est pas très très jeunes, quoi, soient partie prenante et soient impliqués. Alors, on a parlé des programmes scolaires et de la vision officielle. Alors, je me pose chaque fois la question. Il faut aussi mutualiser nos avancées auprès des jeunes, faire connaître ce qui a permis une prise de conscience et qui fait que dans certains établissements scolaires, des deux côtés des Pyrénées, on en parle. Et surtout, qu'il y a des réussites. Parce que si on maintient cette idée que c'est difficile et seulement difficile, en face, ils vont le prendre comme ils l'ont toujours pris, c'est-à-dire au mot, en disant eh bien, si c'est difficile, autant ne pas la faire. Et autant faire même disparaître des programmes, je parle en particulier de l'Aragon, les avancées pour ne pas... que les jeunes, et c'est le combat de demain, hein, parce que la mémoire ne vaut que si elle est transmise. Donc, voilà, à tous, bon courage, comme le disait ma précédente camarade. Voilà.
Alors moi, je voudrais dire un petit mot pour les jeunes, parce que je crois profondément en fait en la jeunesse, pour les avoir quand même rencontrés ici de 2001 à 2018, où j'ai été... Donc, médiatrice et documentaliste. Et en fait, ces jeunes sont très intéressés par cette histoire. Il ne faut pas croire que ça ne les intéresse pas. Si, ça les intéresse. Et ils sont profondément marqués, en fait. Alors moi, je vais prendre l'exemple de mon fils. Il va râler ce soir quand il va savoir que j'ai parlé de lui. Mais profondément râler, même. Mais mon fils, en fait, l'année dernière, est intervenu en cours d'histoire en disant à son professeur, mais enfin, vous n'allez jamais parler de Conchita et de Sylvette. Donc comme quoi, en fait, ils sont marqués, ces jeunes. Et en fait, ils s'en rappellent. Et pendant de nombreuses années, il y a des jeunes qui sont venus ici, qui ont participé au concours de la résistance, plusieurs années de suite, même certains. Ils l'ont fait en troisième, puis ils l'ont continué au lycée. Et ils sont revenus après. Ils ont d'ailleurs participé à une exposition qu'on avait réalisée qui s'appelait « Gamins d'hier, ados d'aujourd'hui ». Ils témoignent dans cette exposition. Donc je pense qu'en effet, comme tu le disais, Diego, tout à l'heure, c'est comment arriver à capter ces jeunes. Et même si nous... les réseaux sociaux, ça nous paraît un peu compliqué. Eux savent très bien les manier. Et je pense que si on arrive à les capter par ce biais-là, on va y arriver. Il y a des profs qui arrivent très bien. Hein. Il y a Monsieur Prof, le prof d'anglais, là, je pense à lui. Il y a un autre professeur de maths aussi qui est très présent sur les réseaux sociaux. Et je pense que si quelqu'un arrive à les attraper, entre guillemets, par cette voie-là, je pense que c'est gagné. Parce que c'est une histoire qui les intéresse, parce que c'est une histoire qui a pu les toucher dans leur famille, soit par des résistants, soit par des résistants déportés. Et j'ai été amenée à enseigner en 2020. J'avais une classe de CM2. Et un élève m'a dit « Ah non, Virginie, oh là là, on va faire de l'histoire. Je déteste l'histoire. » Et quand on a fait la Seconde Guerre mondiale, il ne s'arrêtait plus de parler, de poser des questions. Donc je pense que ces jeunes sont très intéressés. La Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose, je pense, qui les capte. Mais il faut arriver peut-être à trouver le moyen Peut-être pas par des écrits, en effet, hein, je ne sais pas. Je sais pas, la question reste ouverte. Hein, mais par d'autres moyens, et je suis sûre qu'ils s'y plongeront et que ce seront de formidables passeurs de mémoire.
Juste pour revenir, parce que c'était très intéressant, c'est ce que tu... la question qui reste toujours, la façon dans laquelle on peut faire intervenir le jeune dans cette histoire, même s'ils sont attirés par l'histoire, c'est possible qu'on peut envisager le faire partir de processus techniques d'abord. Et donc c'est possible aussi de faire passer de, je sais pas, des initiatives comme... imagine des ateliers techniques, de la diffusion de la mémoire sur la résistance, la déportation de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi pas, je ne sais pas si embaucher, mais au moins faire des stages pratiques, dédiés ici dans le musée, par exemple. Pourquoi pas développer... Ouais, je sais que... c'est une question de volonté aussi. Et je sais que, tout à fait, on parle le matériel, c'est important, bien sûr. Mais il faut faire passer ça par le conseil départemental en disant on essaie de faire, de développer un programme de effectivement, diffusion où on va effectivement mettre dedans la jeunesse, des contenus, etc. Je suis historienne, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas un politique, je ne suis pas directeur du musée. Non, ce n'est pas mon truc à moi. Ouais. Mais c'est décidé que peut-être qu'on a... Parce que vraiment, on voit bien qu'il y a tout le monde qui se pose la question. Et peut-être que la réponse est plus facile de ce qu'on pense. Enfin, le faire entrer dans le milieu, au moins, en faisant partie de ce processus technique. Après... s'ils sont fait partie aussi du concours de la résistance, si jamais le concours de la résistance a une espèce de, je dirais une spécialité comme de la diffusion, pas seulement pour la création de contenu, pas seulement pour la recherche, de la diffusion, c'est possible qu'on peut envisager ce type de trucs, mais c'est décidé, je sais pas, c'est possible. Même pour les associations, Henri. Pourquoi pas faire partie le jeune de renouveler de réseaux sociaux de l'association, faire entrer l'association dans la logique de médias de réseaux sociaux à partir de la participation de la jeunesse, je sais pas, se décider, juste décider. Hein.
Juste un mot là. Merci. Oui. Bon, moi j'ai eu la chance d'être payé toute ma vie pour faire de l'enseignement et de la recherche. C'est une chance. Mais je me dois, ça fait 15 ans que je suis à la retraite, une retraite très active, suractive, radioactive. J'ai le devoir de transmettre ce que ma vie personnelle m'a permis de distiller. Et donc la question de la rigueur qui est revenue plusieurs fois dans ce débat, et chacun a fait effort, là, Diego, Joseph, Virginie, moi aussi, enfin, on a essayé de dégager. Alors moi je crois que effectivement les nouvelles techniques, moi depuis 1971, ma première thèse de docteur ingénieur, et puis ma deuxième en 1980, j'ai travaillé en intelligence artificielle. Alors, je sais bien que ça peut faire choc ou étonner, je ne le dis pas pour être vantard ou quoi que ce soit, je le dis parce que c'est un fait. Et donc, dans cette discipline, sur une longue période, on a beaucoup l'occasion, en écoutant les autres d'abord, en faisant des séminaires, en ratant des propositions de conférences qu'on ne vous donne pas, qu'on ne vous accepte pas, puis en apprenant à en faire, on a beaucoup le temps de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine, etc. etc. Et je ne suis pas expert dans les aspects proprement biologiques de l'intelligence, mais... quand même, on a une expérience. Et donc, moi, je trouve que, quelles que soient les nouvelles techniques d'aujourd'hui, moi, j'ai connu, parce qu'en plus, je suis de formation informaticienne, mathématique, bon, bref, j'ai connu les ordinateurs à lampe dans mes premières études de la première année. Et je vois où ce qu'on en est aujourd'hui. Ça, c'est plus puissant que le centre de calcul où il y avait 300 chercheurs qui faisaient les équipes nuit et jour à Rangueil. Donc, tout ça existe. Mais ce n'est pas ça, l'obstacle. L'obstacle, c'est que dans la société... ce que nous devons maintenir le plus, c'est ce qu'on appelle sur le plan éthique l'honnêteté et ce qu'on appelle sur le plan technique la rigueur. Et donc, on doit apprendre aux gens, aux jeunes, on dit toujours l'esprit critique, etc. Oui, on doit leur apprendre à raisonner. Et moi, quand je vois mon petit-fils, en même temps, il faut qu'on s'occupe de lui. Bon, le petit-fils, il y a longtemps que j'avais... Bon, quand on lui fait faire le complément d'objet direct, donc c'est de la grammaire, et qu'on voit des types qui gagnent 10 ou 12 000 euros par mois à la télé et qui ne savent pas le faire, on se pose un problème, et des ministres même. Quand on voit un ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques années, une règle de trois, il ne savait pas la faire. Donc ça veut dire que quelque part, la société est déréglée et qu'il faut cultiver la rigueur chez les jeunes et leur montrer le plaisir qu'on a à apprendre à être rigoureux. On a du plaisir. Et par exemple, et je termine, cette affaire que j'ai mise en exergue là, des 68 déportés olvidados, 5 ans de lutte avec l'administration pour les faire reconnaître alors qu'on leur avait forgué toutes les côtes et qu'on pouvait faire des tas de publications dessus. 68. Mais on peut faire un TP avec des jeunes de tous âges et leur dire pourquoi, parce que c'est des questions qu'on se posait à table aussi, Diego, pourquoi des historiens, ils ont dit des bêtises ou ils n'ont pas dit tout ce qu'il fallait, etc. Mais là, dans le cas présent, c'est parce que les techniques de réflexion sur le train fantôme, une grande partie des gens passent leur temps à copier celui qui a déjà écrit dessus et pas beaucoup se penchent sur quelle est l'origine de la liste du train fantôme. Et si je vous dis que les gens, pendant des années, ont travaillé juste avec la liste des arrivées, alors qu'il suffisait de penser, qu'un gosse peut y penser, il fallait regarder les listes de départ. Donc vous voyez, on peut faire l'étude des paradigmes de découverte à partir d'exemples intéressants qui font qu'il y a des gosses qui vont se mettre sur orbite. Et celui qui n'écoutait pas en histoire, comme tu l'as montré, il va écouter parce qu'il va voir que le complément d'objet direct, 2 et 2 font 4 et l'histoire, tout ça, et que lui, il est capable de comprendre. Il n'est pas simplement pour avaler un catéchisme, il est capable de raisonner. Voilà, merci.
Merci Henri. Il est 17h30 et je pense qu'on va, s'arrêter là. On va remercier aux intervenants, Henri, Virginie, Giuseppe, Diego. On va remercier également au Mémorial démocratique parce que c'était un partenaire fondamental pour que cette table ronde puisse avoir lieu. Merci Jordi, merci encore Giuseppe. Et remercier également à Christiane et à Ramos et pour avoir pris la parole et à Jordi. On va boire un coup.
Mémodio, une mémoire sonore.